Radio Kapi. Le journal Passion Singaloula Mbombo.
Le chef de l'État poursuit sa visite de travail dans la province de la Tshopo. Sur place, Félix Tshisekedi va présider tout à l'heure les conseils de ministres de ce vendredi 25 octobre. Hier jeudi, il s'est recueilli au cimetière du Génocoste où reposent les victimes de la guerre des six jours. Plus de 90% des personnes ciblées par la vaccination contre le Mpox sont touchées dans quelques provinces du pays. Déclaration du représentant de l'OMS en RDC quelques semaines après le lancement de cette campagne au pays. Notre invité est le professeur Jacques Djoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Dans un entretien avec Radio Okapi, il revient sur les dossiers 513 députés alignés au budget 2025 et sur d'autres questions cruciales du pays. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce vendredi 25 octobre 2024 va se tenir à Kisangani. Il sera, vous l'avez certainement compris, présidé par le chef de l'État qui séjourne sur place depuis mercredi. Le chef de l'État va aussi inaugurer, toujours ce vendredi, l'aérogare de l'aéroport de Bangoka. Hier jeudi, au deuxième jour de sa visite de travail à Kisangani, Félix Tshisekedi s'est rendu au stade Lumumba pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours. Mais auparavant, il s'est recueilli au cimetière du Génocoste où reposent les victimes de la guerre des six jours. Au retour de ces sites historiques, il a effectué une visite dans les installations du Fonds des réparations et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. À cette occasion, il a remis un chèque à l'Église catholique qui avait aussi subi des affres de la guerre des six jours à Kisangani. Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate s'est dit satisfait de ses gestes. Un reportage de Jacques Moukonkole.
En recevant ces documents pour le retrait d'une somme de 2 500 000 dollars américains, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate n'a pas caché sa satisfaction et ses remerciements à l'égard du FRIVAO, du ministre de la Justice ainsi qu'au chef de l'État. Selon lui, cette somme est une première tranche des 4 millions sollicités pour les dommages que l'Église catholique a subis pendant la guerre de six jours. Nos écoles, nos paroisses, nos communautés ont été endommagées, a-t-il déclaré. Il a émis le vœu de voir le FRIVAO poursuivre ses opérations pour l'indemnisation de toutes les vraies victimes. Ainsi, leurs larmes seront essuyées, a-t-il renchéri. Pour sa part, le coordonnateur intérimaire de cet établissement public a révélé qu'en vue de permettre aux victimes certifiées de percevoir rapidement leur indemnisation, il a obtenu de la Rawbank l'ouverture d'un guichet dans ses installations. Chansar Borokola appelle donc les victimes dont les noms ne sont pas encore affichés à la patience. Il a remercié le chef de l'État pour s'être rendu dans ces lieux, signe de l'attention qu'il accorde au FRIVAO, une institution qu'il a créée afin de prendre en charge les questions relatives à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda dans la Grande Orientale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Arrivé mercredi à Kisangani, le président Félix Tshisekedi s'est adressé le même jour dans la soirée à la population de cette ville venue l'accueillir. C'était à la place de la Poste. Dans son adresse, Félix Tshisekedi a abordé différents sujets. Radio Kapi a promené son micro pour recueillir les réactions des Boyomé. Pour certains, ce discours n'est pas nouveau. Ils attendent voir les réalisations sur les terrains. D'autres se disent inquiets de constater que le président n'a pas parlé des salaires des enseignants, moins encore de l'électricité. Sur les plans politiques, la révision et ou le changement de la Constitution a aussi retenu l'attention de la population. Suivez ces propos recueillis par Jacques Mokonkole, notre permanent à Kisangani.
J'attends vraiment que ça soit réalisable.
Les infrastructures au niveau de notre province commencent à aller, mais faire le suivi de tout ce qu'on est en train de faire. On a dit 80 km de la voirie urbaine, c'est bon. C'est mieux du moins de goudronner ou bien de bétonner.
Nous devons continuer à inspirer confiance au chef, surtout les conflits. Mbole, l'Angola, il a tellement souhaité que nous puissions cohabiter pacifiquement.
C'est déjà entendu, discours de routine. Cette fois-ci, ça ça soit vraiment une promesse réelle et réalisable.
Récemment ici, les enseignants étaient assis, surtout au niveau des primaires où il n'y a plus la prime. Il y a certains enseignants qui sont encore NI, ne sont pas payés. Alors ces enseignants là-bas, comment est-ce qu'ils vont vivre?
Les salaires de l'enseignant là, il n'a pas fait allusion hier. Un enseignant de l'école primaire qui se retrouve dans 4-5 maisons pour le préceptorat, quand est-ce qu'il a le temps d'aller préparer le lendemain?
Par rapport à la constitution, nous devons d'abord continuer à respecter les mandats de 5 ans une fois renouvelables. Je pense que cet article doit encore demeurer verrouillé.
La campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo est un succès dans les provinces où elle se déroule. C'est ce que déclare le représentant de l'Organisation mondiale de santé en RDC. Selon le docteur Bureima Amasambo, plus de 90% du nombre des personnes concernées par la vaccination au cours de cette première phase ont été atteints dans quelques provinces du pays. La campagne de vaccination contre les virus Mpox a démarré au début du mois d'octobre par les Nord et les Sud Kivu avant de s'étendre vers les autres provinces. On écoute le docteur Bureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, au micro de Stanislas Djoumi.
Si on considère les cibles qui ont été définies pour cette campagne, nous pourrons dire que ça a été vraiment un succès. Puisque par rapport aux chiffres, aux cibles plutôt, il y a des campagnes et des provinces qui ont déjà atteint 100% de ce qui était ciblé. C'est notamment le Sankuru, le Sud-Ubangui et la Tchopo. Mais grosso modo, au point de vue national, sur la cible initiale des micro-planifications, c'est plus presque 90% de la cible qui a été déjà vaccinée à cette première dose. Comme vous savez, le vaccin que nous utilisons, c'est un vaccin dont l'immunisation se passe en deux doses. Donc il y a une première vaccination, une première dose ou les premiers antigènes qui sont administrés. Et il y aura à peu près un mois après le passage à la deuxième dose pour que la personne vaccinée, qu'on considère qu'elle est complètement immunisée. Donc nous pouvons dire, si on parle d'un taux, ça fait 12 jours, 2 semaines de vaccination. Si on est vraiment à presque 90% à l'échelle de ces 6 provinces, nous pouvons dire que la campagne a été un succès.
Retenez que le docteur Bureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, sera l'invité de Radio Kapi dans nos éditions de la journée. Vous pouvez donc les suivre à 12h, 15h et 18h, heure de Kinshasa. Au Nord Kivu, plus de 3000 écoliers sont maintenant bénéficiaires d'un acte de naissance en territoire des Niragongo. Cela grâce à un projet de l'ONG, Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme, veuf et de leur promotion sociale, MIDEFEOPS, financé par l'UNICEF. La remise est intervenue mercredi dans l'enceinte d'une école primaire à Munigi. Selon un acteur local de la société civile du territoire des Niragongo, ceci évite désormais les risques d'apatridie pour ses enfants. Les propos de M. Boseni Bamboué, Jean-Étienne, sont recueillis ici par Bernardin Nyangui.
Plus de 3000 écoliers de la zone de santé de Niragongo viennent de bénéficier des actes de naissance grâce au plaidoyer mené par l'ONG MIDEFEOPS. Nous, organisations de la société civile, nous remercions l'ONG MIDEFEOPS et son partenaire financier qui ont fait tout possible pour que ces enfants écoliers, depuis de 90 jours, soient reconnus comme Congolais, Congolaises, et qui ont obtenu leurs actes de naissance. À notre niveau, c'est une satisfaction que nous les demandons de continuer à mener d'autres actions à la même sens pour les autres enfants qui n'ont pas bénéficié des actes de naissance.
Ceci entre dans le cadre du projet de protection des enfants et survivants des violences basées sur les genres affectés par les conflits armés au Nord Kivu, ciblant 17 000 écoliers que MIDEFEOPS exécute depuis quelques mois en province. Au Kasaï oriental également, au Kasaï central, voulais-je dire, les HCR a débuté hier jeudi la remise officielle des actes de naissance aux enfants des déplacés, retournés et rapatriés d'Angola, se trouvant au village Nkonko et dans la localité de Chilumba. Cette opération rentre dans le cadre de la campagne de rattrapage de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Elle est menée par cette agence onusienne en partenariat avec les comités techniques interinstitutionnels de lutte contre l'apatridie en RDC. François Kadima nous en parle.
Cette campagne vise 3300 enfants des déplacés, retournés et rapatriés d'Angola qui sont sur les deux sites notamment Konko et Chilumba. Il s'agit de la remise des actes de naissance, ces documents conférant une existence juridique. Ces enfants n'ont pas été déclarés à la naissance. L'un des parents qui a vu son enfant bénéficier de ce document a salué cet acte posé avec le soutien du ACR.
Des fois quand on veut s'identifier, on n'avait que la carte d'électeur pour nous qui sommes majeurs. Mais pour les enfants, aucun document de a été donné. Ça me rassure maintenant que les enfants ne sont pas des apatrides, mais ils sont des Congolais de sang.
Appelant l'engagement de tous, le chef de sous-délégation du ACR au Kasaï a indiqué que le souci derrière cette action est de lutter contre l'apatridie. Docteur Jacques Gondo.
Pour que chaque enfant ait une identité juridique, cela dépend de votre engagement, de votre dynamisme et de votre détermination à éliminer de façon effective les risques de l'apatridie au Kasaï central.
Signalons que les enfants concernés par ce rattrapage sont ceux qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil dans le 90 jours après la naissance. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Les animateurs des organes des Nations Unies devraient intensifier leurs actions au sein de la communauté pour mieux sensibiliser sur leurs interventions. C'est la recommandation faite par le président de la société civile Force Vive de la ville de Beni au Nord Kivu hier jeudi 24 octobre à l'occasion de la journée des Nations Unies. L'objectif de cette journée est de promouvoir les réalisations et les valeurs de l'ONU tout en sensibilisant les publics à l'importance de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. Pépin Kavota reconnaît les efforts fournis par certains organes des Nations Unies dans la région des Beni, mais insiste sur l'importance d'une plus grande visibilité. Il s'exprime au micro de Guylaine Kassassia.
On peut dire que depuis un certain temps, on est, n'est-ce pas, en train de remarquer que certains organes travaillent bien. Les Nations Unies a proclamé la journée du 24 octobre comme étant une journée des Nations Unies. Devriez, n'est-ce pas, juger, aller dans la communauté, essayer de voir la perception de la population elle-même. Je peux dire ici que si nous prenons, par exemple, certaines organisations des Nations Unies, il y a certains, par exemple, qui travaillent bien. Il y a certains qui viennent aux rescousses de la population. Si nous parlons de la DIACER, si nous parlons OCHA, si nous parlons, il y a plusieurs. Et maintenant, la population voudrait que s'il y a des organes des Nations Unies qui sont sur place, il faudra qu'on voie que ces organes soient aux côtés de la population. Et donc, j'en appelle aussi les animateurs de bien pénétrer la population et de travailler au nom de la population. Parce que si vous demandez à une population de là-bas, peut-être ne connaît même pas elle, qu'est-ce que signifie Nations Unies, qu'est-ce que signifie organe des Nations Unies.
Autre nouvelle, il n'est possible d'envisager le départ de la MONUSCO de la RDC qu'après la mise en place effective du programme de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire et stabilisation. C'est la recommandation faite ce jeudi à Ro, dans les territoires de Djougou, par les leaders communautaires des entités Emalendou à une délégation de la MONUSCO conduite par la chef des cabinets du numéro 2 de la MONUSCO. L'objectif de cette visite était de s'imprégner du rôle des casques bleus dans les processus de protection des civils. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Les leaders communautaires, acteurs de la société civile et organisations féminines locales ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la situation sécuritaire encore précaire dans les entités de Baéma Nord et secteur de Walendu-Pitsi dans le territoire des Djougou. C'est entre autres la détention d'armes par les groupes armés locaux Kodeko et Zaïre et des actes de provocation d'attaques réciproques qui causent préjudice à la population. Maté Sokipoi, chef du groupement Laoudjo du secteur de Walendu-Pitsi.
Pour la première fois, ils nous ont ramené les jeunes de la communauté Emma à Laoudjo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aussi sur le terrain Emma pour les pourparler. C'est ça notre souci.
Ces notables saluent toutefois l'apport de la MONUSCO pour l'amélioration de la sécurité et la cohabitation pacifique. Ils plaident pour l'intensification des patrouilles en vue de faciliter les échanges commerciaux aux différents marchés communautaires. Le représentant du chef de Baéma Nord, Henri Tchoukpa.
Ce que nous allons encore nécessiter de la part de la MONUSCO, que leur patrouille nocturne soit beaucoup intensifiée. Si ça y est, de départ de la MONUSCO, il faudrait d'abord accélérer avec le processus de PDDRC.
La MONUSCO promet de plaider auprès du gouvernement central pour la mise en œuvre de ces processus. Elle encourage cependant les leaders locaux à privilégier les dialogues pour préserver les acquis des pays. De retour d'Euro, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En Ituri, plusieurs véhicules des particuliers saisis par la police à Bounia pendant l'opération de contrôle des plaques d'immatriculation circulent avec des faux documents de déclaration de dédouanement. C'est l'une des conséquences de l'impossibilité pour certains propriétaires de se procurer des plaques auprès de la direction des impôts. Ils se disent victimes de ce qu'ils qualifient de mafia de la part de certains agents des douanes et demandent que justice soit faite. De son côté, le directeur de la DGDA en Ituri les exhorte à saisir la justice pour que les responsabilités soient établies. Félix Kitenge l'a dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Dès qu'on intercepte par la police et qu'on saisit le véhicule, nous n'avons pas de preuves que c'est seulement les douaniers qui avaient falsifié les documents. Mais il n'y a que lui qui peut porter la clarification en citant nommément les noms de la personne qui avait donné un faux document. À ce moment-là, on pourra prendre des sanctions sévères contre la personne, mais pour le moment, je n'ai aucun dossier, je n'ai aucune preuve. Tout ce que nous voulons, que ces gens-là payent les droits et taxes et qu'on leur délivre les documents officiellement afin qu'ils aillent demander la plaque d'immatriculation pour leur véhicule. C'est ça la justice. Moi, je ne peux pas prendre une sanction contre un inconnu. Alors, s'ils estiment qu'ils sont lésés dans leurs droits, ils n'ont qu'à dénoncer les personnes à qui ils avaient donné de l'argent pour qu'on arrive à les corriger. Au cas contraire, qu'il aille saisir la justice pour les accuser, ça c'est son droit aussi. Mais au moins, en tant qu'administratif, je me limite sur les actes posés. Sur ma table, je n'ai aucun acte de compromission d'un agent par rapport aux véhicules qui sont saisis au niveau de la police.
Actualité internationale.
Le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président, a annoncé la commission électorale du pays jeudi 24 octobre, 15 jours après les élections générales du 9 octobre, entachées d'irrégularités selon les observateurs internationaux.
L'invité.
À faire 513 députés alignés au budget 2025, fonds spécial d'intervention, détournement des fonds constatés dans le cadre de l'examen de la réédition des comptes 2023 ainsi que les débats sur la révision constitutionnelle. Ces questions ont fait l'objet d'un échange entre Radio Capi et les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Joly est donc l'invité de Radio Capi ce matin. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour Monsieur Michel Kifindangoy.
L'Assemblée nationale a aligné 513 députés au lieu de 500. Qu'en est-il au juste ?
D'abord, l'Assemblée nationale n'a pas aligné, parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui établit le projet de loi des finances, c'est le gouvernement. Mais puisqu'on en parle, l'Assemblée compte effectivement 500 députés. Tous les anciens présidents de l'Assemblée sont renouvelés. Donc, il faut le reprendre dans cette liste. Donc, il y a les cas des anciens présidents qu'il faut prendre en compte, les cas des députés qui décèdent. Et troisièmement, nous avons été très souvent condamnés devant les organisations internationales parlementaires à payer pendant toute une législature un certain nombre de députés. Alors, toutes ces dépenses allaient, je crois, dans la rubrique fonctionnement. Mais cette fois, je crois que le gouvernement a voulu glisser pour éviter chaque fois des échanges avec l'Assemblée qui doit bénéficier de sa dotation.
Vous savez que Crefdel dénonce plusieurs millions de dollars mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat comme frais d'intervention et on ne sait pas clairement à quoi ça sert. Ne pouviez-vous pas utiliser cette enveloppe pour résoudre les autres problèmes?
L'Assemblée, c'est un organe collégial constitué de 500 députés qui représentent l'ensemble de la République. Lorsqu'il y a naufrage à Minova, il faut envoyer les députés là-bas parce que ce sont leurs élus qui sont morts. Aujourd'hui, le chef de l'État est à Kisangani. Tous les élus de la Grande Orientale sont à Kisangani et ils y sont depuis pratiquement 3-4 jours. Au frais de qui ? De l'Assemblée.
Mais tout l'enjeu, professeur, réside au niveau de la mise en œuvre fidèle du budget. Nous avons assisté à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes. Plus de 50% des dépenses en urgence, et c'est environ 8 milliards de dollars qui ne sont pas tracés aujourd'hui. Il y a des routes qui étaient prévues être construites qui n'ont jamais été construites. Et après, on n'a pas vu un seul gouvernant être sanctionné. C'est que le Parlement, quelque part, n'a pas fait son travail.
Dire que le Parlement n'a pas fait son travail, ce n'est pas vrai, M. Michel.
C'est lui l'autorité budgétaire pour contrôler aussi la mise en œuvre du budget.
Ce qui ont dénoncé ces dépassements, ce sont les députés, de manière démocratique, dans un débat ouvert.
Ce que le peuple attend, c'est la sanction et surtout la restitution des fonds de la République.
Restitution, on y arrivera, mais ce n'est pas le rôle de l'Assemblée. Pour le moment, les sanctions et autres, mais attendons le rapport de la commission économico-financière.
Comment l'Assemblée nationale compte-t-elle faire réduire les dépenses courantes dans le pays si elle-même tombe dans le piège? Vous avez pris vous-même l'exemple du voyage du chef de l'État à Kisangani. Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir, par exemple, à construire un pont dans la province de la Tshopo?
C'est un problème de vision. Vous savez ce qui se passe à la Tshopo aujourd'hui, entre les Mbole et les Lingola? Une situation d'insécurité assez particulière. Vous vous imaginez un député de Mokoto qui apprend qu'il y a eu confrontation entre les Pygmées et le Bantou et on a brûlé tous les villages, il y a des morts qu'il faut aller enterrer et il va aller le comment? Il faut que le Parlement l'accompagne.
Et pourquoi ne pas renforcer l'administration territoriale, les entités décentralisées et les provinces pour s'occuper de ces problèmes locaux et provinciaux au lieu de tout concentrer sur les institutions de Kinshasa?
Mais c'est ça le but de toute cette architecture ou de cette décentralisation qui est plus ou moins inachevée. Je prends les cas. Je suis arrivé à Béfalé. Il faut que je me fasse accompagner par le comité provincial de sécurité. La province n'a pas de ressources. C'est donc l'Assemblée qui doit prendre en charge, y compris parfois, excusez-moi de vous le dire, le gouverneur et tous les comités.
Pensez-vous, si on respectait la Constitution scrupuleusement et que la retenue à la source de 40% était respectée, vous auriez ces problèmes tels que vous les décriviez aujourd'hui?
La question de la retenue à la source, c'est une question qui doit être examinée sereinement. Parce qu'au-delà de la retenue à la source, qui est constitutionnelle, il y a la question de la faisabilité.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notez que le professeur Jacques Joly sera l'invité des grands témoins ce dimanche sur Radio Capi pour entrer en profondeur de toutes ces problématiques. Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou, supervisé et coordonné par Pele Kipela Mondo, au micro Patience Ngalou Lambombo. Merci de l'avoir suivi.